6-9 du week-end sur France Inter.
Patricia Martin, votre invitée, c'est Pascal Pic, paléo-anthropologue.
Et maître de conférence au Collège de France, anthropologue évolutionniste, on peut aussi dire ça comme ça. Bonjour Pascal Pic.
Bonjour Patricia Martin. Bonjour,
votre Pierre. Réflexion dans ce livre que j'ai entre les mains, L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, porte sur plusieurs intelligences, donc l'intelligence humaine, l'intelligence animale et aussi celle des machines, et vous démontrez que si on ne comprend pas les animaux, on aura du mal avec l'intelligence artificielle. Mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour l'être humain de comprendre d'autres intelligences que la sienne?
Parce que notre culture, surtout en Europe occidentale, met l'homme au centre de tout.
L'homo sapiens a pris toute la place.
Et puis nous évaluons les autres espèces, sont-elles aussi intelligentes que nous? Et puis c'est parti d'une autre réflexion, j'entends partout à chaque fois, est-ce que l'intelligence artificielle ou les machines vont supplanter l'homme? C'est une espèce d'angoisse. Alors ça
vient. Il ne faudrait pas qu'elles deviennent plus intelligentes que nous quand
mais
même.
Je rassure, elles le sont déjà dans certains domaines, elles sont plus rapides mais sans conscience. La chose étant, c'est que ça touche à l'anthropologie, c'est pour ça que je me suis adressé à cette question, parce que nous autres préhistoriens, pour faire simple, qui connaissons l'évolution de la ligne humaine, il y a une particularité, c'est que la ligne humaine se caractérise par une coévolution avec ses techniques et ses usages. Ça depuis 2 millions d'années, depuis Homo erectus. L'autre chose également, c'est que c'est un rapport à l'autre, à l'altérité, aux autres formes d'intelligence. Donc, quand on dit l'intelligence animale, nous sommes piégés par notre façon de parler, puisqu'en fait, ce sont les intelligences animales. Les chimpanzés sont plus proches de nous, comme vous le savez, que ne le sont par exemple les dauphins ou les éléphants, qui ont d'autres formes d'intelligence. Et puis, il y a aussi les intelligences artificielles. Cependant, quand ce projet est parti dans les années 50, l'idée qui vient d'Alan Turing était de se dire, on va construire des machines qui vont imiter l'intelligence humaine. Donc, on est parti du haut, c'est-à-dire du langage, des approches mathématiques, logico-mathématiques, ce qu'on apprend à l'école. Vous savez, notre cerveau gauche, pour faire simple. C'est pas aussi simple. Mais c'est ça. Donc, on est parti du haut, c'est ce qu'on appelle l'approche symbolique. Mais il y a une autre approche qui légitime aussi mon intervention dans ce domaine-là. C'est que celle qui est en train d'éclater aujourd'hui sur les assistants vocaux, sur les traductions automatiques. Vous savez que bientôt, on va converser à travers nos téléphones avec une traduction automatique orale avec des Chinois, des Mongoliens, des Africains, etc. Donc ça, c'est plus de la science-fiction et surtout la reconnaissance d'images. Dans ce qu'on appelle l'apprentissage machine, où vous avez donc des ensembles de données importants où la machine apprend elle-même. Donc c'est par exemple ce qui s'est passé avec cette machine qui a battu le champion du monde de Jeopardy, qui est question pour un champion. Et puis l'autre aspect qu'on appelle l'intelligence dite profonde est complètement inspirée des réseaux de neurones, et ça a même commencé avant Alan Turing dans les années 40. Et aujourd'hui, cette approche qui est complètement inspirée par la biologie de l'évolution est en train d'éclater à toute vitesse. Donc on est vraiment dans l'évolution.
Mais Pascal Pic, moi je veux bien qu'on mette au clou notre arrogance d'Homo sapiens, ça d'accord, mais est-ce que c'est justifié qu'on ait peur notamment pour nos libertés?
Alors ça d'accord, alors là il y a deux choses dans votre question. Qu'on ait peur, ça aussi c'est un problème qui vient de notre culture, et c'est pas un hasard, et là j'étais le premier à démontrer cette affaire-là. Par exemple, nous, en France, qui sommes très cartésiens, il y a l'homme et l'animal, et puis l'animal-machine. Donc, on a du mal à comprendre qu'il puisse être intelligent. Et ce rapport à l'altérité nous amène à être angoissés, parce que si d'autres formes sont intelligentes, animales ou machines d'ailleurs, on a l'impression que ça va prendre son autre statut privilégié. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, la façon dont les cultures regardent les animaux, c'est la manière dont elles regardent et vivent et considèrent les machines. Et les Japonais, qui quant à eux sont plutôt animistes, pour eux la nature c'est un grand esprit, ce qui est une influence, Alain Baraton le sait, sur la manière de voir la nature, la botanique et les animaux, eh bien eux, au contraire, il n'y a pas de problème, parce que interférer avec des animaux ou des machines, c'est partager le même esprit qui change que par la forme. Donc, regardez les conséquences de l'anthropologie dans notre monde qui bouge. Nous en France, nous avons une très belle entreprise qui s'appelait Adelbaran, qui avait créé Pepper, Nao et Roméo, qui a inventé, c'est vraiment, on a des ingénieurs magnifiques chez nous, des chercheurs magnifiques, c'est dans le rapport Villani. Par contre, on a du mal à l'appliquer dans le monde de tous les jours. Parce que, justement, on a ces angoisses, mais ça, c'est culturel. Par contre, les Japonais ont racheté Adelbaran, qui était l'entreprise, qui s'appelle Adelbaran Robotics. Et vous savez que, en Extrême-Orient, en Chine, en Corée du Sud, et bien sûr au Japon, les robots sont beaucoup plus intégrés. Donc, c'est pas que de la technique, c'est vraiment de l'anthropologie.
Vous parliez là, vous faisiez allusion au rapport Villani, c'est d'ailleurs étonnant de voir l'écho qu'il y a eu avec ce rapport-là, alors qu'il y avait eu un autre rapport précédemment sous François Hollande, et que bon, ça n'avait pas du tout eu d'impact.
Entre-temps, il y a eu AlphaGo qui a battu donc le champion du monde au jeu de Go, et ça c'est une machine qui apprend par elle-même. Alors attendez, accrochez-vous. Quand Kasparov était battu en 1997 au jeu d'échecs, là c'était une machine qui avait enregistré, on l'avait gavé de toutes les parties d'échecs, et ensuite aller chercher les meilleures corrélations. C'est assez simple dans les principes en fait. Là, c'est différent. La machine qui a succédé à AlphaGo s'appelle AlphaZero maintenant. On lui a donné simplement les règles du jeu.
Mais elle peut évoluer toute seule?
Et donc, elle joue toute seule face à elle-même. D'ailleurs, elle joue toute seule, la pauvre, elle est tellement bonne qu'il n'y a personne pour la battre, donc elle est championne, mais elle peut plus s'amuser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand Lee Sedol a été battu au jeu de Go, il a été très déçu. La machine, elle n'est pas contente, elle ne sait pas qu'elle a gagné. Donc, c'est la différence. Ces machines savent reconnaître nos émotions, mais elles ne ressentent pas d'émotions. Pour l'instant, c'est l'intelligence artificielle dite faible. Maintenant, il y a une vraie question dans ce livre. C'est justement, je rappelle une question, parce qu'il y a beaucoup de philosophie là-dedans, parce que le rapport à l'autre, c'est une question de philosophie.
Le rapport à l'autre, qui suis-je, d'où je viens, c'est une question qui est humaine et que ne se posera jamais la machine.
Pour l'instant, non. Mais vous savez, dans le film iRobot, vous avez quelque chose qui revient constamment, qui s'appelle « There is a ghost in the machine », y a-t-il un fantôme dans la machine? Et c'est là que ça devient intéressant, puisque en effet, la question posée, si des neurones, parce que chacun de nos neurones, là nous sommes à la radio, il y a des personnes intelligentes qui nous écoutent, on espère être intelligent, je crois, mais un neurone tout seul n'est pas intelligent. Donc la question qui se pose, c'est comment des entités dépourvues de compétences peuvent créer de la compétence. Et donc, quand on parle des neurones dits artificiels, qui ne sont pas des petites puces, hein, ce sont en fait des fonctions mathématiques, mais dès 1943, l'idée était de non pas partir du haut, comme dans l'approche symbolique, mais du bas, c'est-à-dire de petites entités qui échangent de l'information et qui vont créer des choses qu'on appelle l'émergence. Et là, aujourd'hui, c'est ça qui est en train d'éclater. Et sur les principes évolutionnistes, on ne voit pas pourquoi les machines n'auraient pas une conscience comme la nôtre, mais la capacité d'avoir des formes de représentation.
Pascal Pic, on l'aura compris, donc il faut donner pour donner du sens à son devenir, en tout cas, il faut connaître le récit de ses origines. Est-ce que un jour, on pourrait se dire que les grands singes pourraient se liguer contre nous avec les machines?
Le vrai problème, et vous l'avez soulevé, c'est évidemment l'angoisse de Terminator, les machines qui se révoltent contre nous.
Ouais.
J'appelle cela, moi, en fait, le syndrome de la planète des singes. La vraie raison, dans le roman de Pierre Boulle, qui fait que les grands singes prennent le pouvoir, c'est que les humains ont cessé d'être intelligents et d'actifs physiquement parce que les machines faisaient les choses pour elles ou les grands singes domestiqués. Le vrai danger pour nous, c'est d'abandonner face aux autres intelligences. Et être intelligent, c'est reconnaître les intelligences des autres.
Et votre livre L'être intelligent, il fourmille d'idées, quelquefois même. Toujours complexe, mais c'est très abordable. Pascal Pic, merci. L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur pour une anthropologie des intelligences est publié chez Odile Jacob. Merci à vous.
Tout à l'heure, Patricia Martin, merci.